d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Gilles au micro également et Claude à la technique. Ce soir, nous parlerons des étudiants précaires et des systèmes de bourse qui sont défaillantes. Puis nous parlerons également du gouvernement qui a contraint les députés sur un vote bloqué à voter une révision du calcul de l'AAH pour les personnes handicapées en couple, refusant l'individualisation. Mais nous commencerons cette émission par le retoquage par le Conseil d'État des nouveaux calculs de l'assurance chômage. Saisie par plusieurs syndicats qui contestaient la réforme de l'assurance chômage, la juge des référés du Conseil d'État suspend les règles de calcul du montant de l'allocation chômage qui devait rentrer en vigueur le 1er juillet. En effet, les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de mettre en place à cette date ces nouvelles règles qui sont censées favoriser la stabilité de l'emploi en rendant moins favorable l'indemnisation du chômage des salariés ayant alterné contrats courts et inactivité. En revanche, la juge ne remet pas en cause le principe de la réforme elle-même. Alors Ludo, justement, bonjour, rebonjour.
Bonsoir.
Donc c'est une, là on a là pour une semi-victoire, une demi-victoire on va dire, mais à mon avis c'est sauté pour, bon voilà, demain il risque de revenir sur la situation en fait.
Alors effectivement il y a un deuxième avis hein, du Conseil d'État est prévu pour dans 3 mois, mais le gouvernement envisage déjà éventuellement de représenter un texte. Ce qu'il faut dire sur le fond, hein, parce que sur la forme c'est vrai que bon, on peut finalement c'est la moindre des choses que pouvait faire le Conseil d'État, c'est-à-dire de considérer que l'argumentation du gouvernement était fallacieuse, et c'est un peu ce qu'il a fait, mais gentiment, hein. C'est-à-dire, pour rappel, hein, le gouvernement prétend que pour limiter les contrats courts, il faut baisser l'indemnisation des chômeurs qui sont en situation de précarité, c'est-à-dire qui subissent ces contrats courts, partant du principe que finalement c'est la faute des chômeurs, enfin, ou des précaires, si finalement leur employeur leur fait des contrats courts.
D'accord. Hein,
qui est un accord tacite entre l'employeur et le salarié qui est bien content d'avoir un contrat court.
Ouais.
Et donc, pour réduire le contrat court, il faut baisser l'indemnisation du précaire.
C'est ça.
Ouais. Bon, inutile de dire que ce genre d'argumentation, et je le dis parce qu'on est dans une radio libre, hein, et qu'on n'est pas, voilà, on n'a pas de contrat à rendre. Bon, c'est un peu, pour le dire franchement, un peu de la racaille en col blanc qui peut avoir ce genre de discours. Parce que bien entendu, vous n'aurez pas, par exemple, un contrat court, il suffirait de mettre des malus, par exemple, sur les contrats. La période, les malus sur les contrats rentreront en vigueur en 2022.
Bizarre.
Ça fait 15 fois qu'ils sont repoussés. Pour être tout à fait honnête, le code du travail a été complètement taillé sur mesure pour permettre tous ces types de contrats dérogatoires. On le sait bien. Par exemple, pour donner un exemple, les contrats de chantier dans le bâtiment, les contrats pour les sondages. Bon, donc le législateur a permis toutes ces facilités aux employeurs pour pratiquer les contrats courts. Et il vient aujourd'hui se plaindre d'un recours excessif aux contrats courts de la part des employeurs par rapport à d'autres pays, par rapport à l'Allemagne, par rapport au Danemark. Mais il ne prendra aucune mesure en dehors de sanctionner ceux qui
sont au chômage,
bah oui, comme qui sont précaires et qui ont... Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut être raison gardée. Bien sûr que le gouvernement n'était pas de bonne foi. Et bien sûr que d'une certaine façon, Conseil d'État le lui a dit gentiment. Il lui a dit gentiment, puisqu'en fait, si vous regardez bien le décret, le Conseil d'État reconnaît que eh bien, l'ordonnance est parfaitement légale, elle est prise dans les textes réglementaires, dans les formes. Oui, on peut lutter. Il y a une incitation, peut-être une petite incitation à se reposer sur l'indemnisation du chômage parce qu'on est en situation de précarité. Alors peut-être qu'effectivement, bon, ils peuvent peut-être faire quelque chose. Et puis quand même, à la fin, il faut dire les choses, c'est quand même une question de conjoncture, c'est quand même un peu stupide. On n'est pas bien sûr de la reprise. Donc, et puis quand même, il y a des études statistiques, par exemple, de la direction du travail qui dit que la reprise, c'est pas trop sûr, mais que là où il y a des emplois courts, c'est des contrats courts. D'abord, on se souvient qu'avant 2019, 80% ou 85% des embauches étaient en contrat court, de moins d'un mois.
Tout à fait.
Donc ça, c'est pour vous dire. C'est un problème. Et surtout que il n'y a pas des emplois vacants partout qui peuplent. Non, il y a des rotations sur les emplois et d'employeurs qui ont recours à des contrats courts dans des périodes de surchauffe, comme par exemple la restauration.
Absolument.
Ce qui va redémarrer là tout de suite.
Donc c'est ce qu'on appelle les extras. C'est ça?
Exactement. Ouais, ouais. Bien sûr, parce qu'en fait, il faut avoir des facilités pour recourir au contrat court, et c'est bien dans des secteurs particuliers. Donc bah, typiquement le secteur de la restauration, des enquêtes, du bâtiment. Et donc la DARES quand même précise que c'est quand même pas un choix des salariés, que c'est quand même plutôt quelque chose qui est subi. Et qui est choisi en fait par l'employeur parce que ça lui permet, sur des périodes de surchauffe, des périodes d'appoint, de combler un peu les trous. Et puis surtout, il profite des facilités qui sont faites par la législation. Et l'employeur, alors, c'est vrai, il y a eu des abus, par exemple, pour l'intermittence. Il y a des boîtes de production
bien sûr.
Se reposent largement parce que l'intermittence, c'est sur des longues périodes en fait, hein, d'indemnisation, il faut quelques heures. Et donc là, c'est vrai qu'il y a carrément un abus de grandes boîtes qui payent très bien. Leur salaire. Mais dans le cas, par exemple, je sais pas, des boîtes d'intérim, des boîtes du bâtiment, pour dire que ceux qui sont payés au SMIG raffolent des contrats courts. Vous voyez? Donc, et surtout dire qu'il y a une entente tacite entre employeur et employé. C'est-à-dire que l'employé demanderait à être précaire et l'employeur ne profiterait pas de toutes les facilités qui lui sont faites par la loi pour favoriser la flexibilité. Bon, c'est un oxymore presque. Pour parler sérieusement, le gouvernement pratique l'oxymore pour vendre une réforme qui est évidemment strictement comptable, comme d'ailleurs l'a noté le Conseil d'État.
Absolument.
Et qui consiste à baisser simplement l'indemnisation sur le dos des plus pauvres et des plus précaires.
Mais c'est un peu, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que si on paye correctement, même si, bien sûr que le chômeur n'est pas responsable de son inactivité, mais si on paye correctement un chômeur, il va consommer. Et donc ça va permettre la relance éventuellement, ou une petite relance, je ne sais pas comment le dire, mais. Donc c'est le fait de payer moins bien les chômeurs, c'est empêcher des gens qui sont.
Ça a une conséquence directe sur, par exemple, le taux de pauvreté.
Exactement.
Et évidemment, d'une certaine façon, sur la consommation. Mais de toute façon, on a toujours des gouvernements qui voient les choses dans un sens. D'abord, qui sont dans un sens européen, hein, c'est-à-dire, finalement, on fait comme on fait partout ailleurs. Hein, et puis surtout, qui ont une vision, comme je l'ai dit, hein, des comptes publics. Donc des qui voient pas les bénéfices secondaires et qui sont pas du tout dans des pronostics de relance. Alors j'ai dit comme ils font partout ailleurs. Non, c'est pas vrai, ils ne font pas partout comme partout ailleurs. Ils ne font pas comme partout ailleurs, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, Biden, alors aux États-Unis ils partent de très très bas, hein,
ils ont
un salaire minimum ridicule, clair. Ils ont pratiquement pas de salaire minimum et puis ils ont en termes d'indemnisation, c'est pas là. C'est pas la joie, mais en tout cas, Biden propose un plan de relance, essaye d'instaurer un minimum, et surtout, il y a une extrême gauche qui est favorable à un revenu garanti et qui voudrait sortir de ce schéma, Friedmanien, hein, Milton Friedmanien, on va dire, qui veut vous expliquer que il y a toujours un chômage naturel, hein, qu'on peut pas atteindre le plein emploi, et donc c'est important que le chômage soit haut pour que les salaires soient bas et pour qu'il n'y ait pas d'inflation. C'est aussi un brillant
J'essaie de comprendre, Ludo. Tu es en train d'expliquer que le chômage de masse permet aux employeurs de
moins payer garder, les salariés.
De moins payer les salariés.
Donc c'est ce que dit la BCE. Oui, c'est pas moi qui ai inventé les choses. Ils sont contre l'inflation. Donc c'est les classiques. Moi, j'invente rien. Oui, et non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Monsieur Macron était un réactionnaire. Et que son gouvernement était réactionnaire. Oui, parce qu'ils sont plus réactionnaires qu'aux États-Unis.
Oui,
c'est clair. Qui sont en train quand
même de préparer. Et aux États-Unis, le salaire de base, ce serait quoi, 4 000 dollars?
C'est très très bas. C'est très très bas. Je vais pas dire de bêtises, mais le salaire minimum à l'heure est presque plus bas et plus bas qu'en France en fait.
D'accord.
Mais il y avait le salaire réel qui était pratiqué. Il y a eu un écrasement. C'est tout le problème de cette histoire de contrats précaires, c'est qu'il y a eu d'abord un écrasement des bas salaires non qualifiés dans des secteurs non qualifiés comme on dit. Alors effectivement, il y a la restauration, le ménage, les services en fait. La restauration rapide et là-dessus, il y a en plus eu l'ubérisation. Donc tout concours, donc l'ubérisation, c'est toi tu sors de banlieue, t'as juste ton vélo à t'as juste ta force à vendre de tes bras, tu vois, et tu vas ubériser pour Uber Eats, tu vas courir sur ton vélo, tu vas faire le livreur
pour le verre de pizza, genre de choses.
Et donc l'ubérisation, c'est alors même en plus l'ubérisation, c'est pire parce qu'il y a pas de contrat, il y a pas d'employeur, t'es ton propre employeur. Mais dans le cas où il y a une réglementation qui se met en place, évidemment que c'est le genre de boîte qui empoche à tellement bas salaire que tu as forcément des contrats courts. Et que c'est même une gestion du personnel, finalement. Ça permet de tenir les personnels sur des emplois tout pourris, en fait. C'est pour ça que ces emplois, qu'il y a une forte rotation, ces emplois, c'est que les personnes ne restent pas forcément très longtemps quand c'est un mauvais employeur. Donc le principe du contrat court, c'est la situation économique qu'il veut, c'est le secteur qu'il veut. Et c'est aussi parce que les salaires sont bas. C'est friedmanien. C'est-à-dire que plus les salaires sont bas, moins la main-d'œuvre est capable d'imposer à son employeur un équilibre en fait dans le rapport et un emploi stable. Voilà. Donc, mais il faut entendre quand même l'argumentation du gouvernement, c'est de proposer un emploi stable. Alors, je voulais quand même, il y avait quand même une réaction. Alors, on aurait dû peut-être la passer avant, mais c'était notre ministre Elisabeth.
Est-ce qu'on peut
entendre notre ministre Elisabeth?
Oui, voilà.
Qu'on l'entende, parce qu'elle dit des choses qui sont sur la forme sensées, mais bon, voilà.
Dans le fond, c'est ridicule, quoi.
Je sais pas, parce qu'on l'a coupé avant. On l'a pas laissé dire.
On écoute. Est-ce que le gouvernement va maintenir, oui ou non, cette réforme?
Alors moi, je parlerai pas de camoufler, parce que le point positif, c'est que le Conseil d'État ne remet pas en cause la réforme de l'assurance chômage.
C'est ce qu'il dit. Il ne remet pas en cause le principe de la réforme, mais il se prononcera sur le fond d'ici quelques mois.
Et il n'a retenu aucun des points qui avaient été soulevés par les organisations syndicales. Alors, en effet...
Si, quand même, il a répondu à leur recours, puisqu'il a suspendu l'application au 1er juillet.
Sur les points de fond, la contestation des différentes dispositions, il n'a pas retenu ces points. Ce que nous dit le Conseil d'État, c'est qu'il considère que ça n'est pas le bon moment pour changer le mode de calcul de l'allocation chômage, parce que le Conseil d'État considère que la situation économique est incertaine. Ce que je vois pour ma part, c'est que l'activité économique repart, que les embauches sont très dynamiques. Je crois qu'on connaît tous des entreprises qui nous disent qu'elles ont même du mal à trouver des salariés dont elles ont besoin.
Donc le Conseil d'État se trompe? Il apprécie mal la situation?
Écoutez, en tout cas, on va regarder comment on peut rassurer davantage sur la situation économique, sur le marché de l'emploi, et comment donc on peut répondre aux inquiétudes soulevées par le Conseil d'État.
Donc il n'est pas question de renoncer à cette réforme?
Moi, je vous confirme qu'on va chercher le meilleur chemin pour une mise en œuvre rapide de la réforme. Parce que je voudrais rappeler pourquoi on fait cette réforme
de
l'assurance chômage.
C'est quand une réforme, une mise en place rapide de la réforme?
Je ne vais pas vous répondre maintenant, puisqu'on est en train de chercher les meilleures voies pour répondre aux interrogations du Conseil d'État sur la conjoncture économique et le marché de l'emploi. Mais je voudrais rappeler pourquoi on fait cette réforme.
Mais c'est une affaire de semaine, une affaire de mois ou une affaire de prochain quinquennat?
Non, c'est évidemment dans les prochains mois qu'on veut que cette réforme, dans les tout prochains mois qu'on veut
avant
que cette
la fin
réforme...
de l'année.
Oui, absolument.
Et donc, Ludo, la réforme, le principe de la réforme n'est pas remis en cause par le Conseil d'État. Apparemment, c'est légal, etc. Mais là, qu'est-ce que ta réaction par rapport à ce qui vient d'être dit par
Le gouvernement ne lâche pas l'affaire.
Ah oui, bien noté.
Je veux dire d'ailleurs, bravo à l'intervieweur parce qu'il est, il fait quand même bien son job.
Ouais, hein, bien
parce
qu'il
veut passer sur RTL. Non, le gouvernement ne lâche pas l'affaire. Et petit 2, ce que dit Madame Elisabeth Borne est tout à fait exact. C'est-à-dire que pendant sur les 17 pages de l'arrêt, il y en a 15. Qui sont où le Conseil d'État dit que tous les recours qu'a présenté des organisations syndicales sont nuls et non avenus.
D'accord.
Et que sur le fond, le gouvernement est parfaitement légitime à employer la méthode qu'il emploie, qu'il a tout fait dans les règles.
Est-ce que le Conseil d'État motive cette réponse ?
Alors justement, c'est à partir de la page 15, il donne une réponse globale.
D'accord.
Pour dire que, et comme le dit Madame Borne, effectivement, c'est vraiment pas le bon moment. Et que prétendre lutter contre la précarité en précarisant les plus précaires, ce n'est pas aller dans une conjoncture très dégradée dont on n'est pas sûr de la reprise, comme le dit l'étude du ministère du Travail, n'est pas dans l'ordre de l'intérêt public affiché. Donc ce qu'a traduit un type... Sur une radio hein, d'État, dire au moins c'est bien que c'est vrai que ce qui est quand même bien, c'est que parfois le Conseil d'État se permet de dire au gouvernement on ne peut peut-être pas dire tout et n'importe quoi non plus à tous les moments. Voilà.
D'accord.
Et donc voilà.
Alors il y a juste une chose par rapport à ce qui a été justement suspendu par le Conseil d'État, c'est le calcul du salaire de référence et du salaire journalier de référence. Le calcul de la durée d'indemnisation. Donc, il y a un truc que j'ai un peu suivi, mais pas vraiment complètement. Donc, apparemment, le calcul de la durée d'indemnisation, normalement, c'est 4 mois d'habitude.
Alors,
c'était 4 mois avant, mais c'est toujours 4 mois maintenant, pour le coup. Alors,
la durée d'indemnisation, elle dépend de,
oui,
de ta durée de cotisation.
Travailler,
par contre,
sûr,
voilà,
oui.
Donc la durée, le seul minimal, c'est 4 mois. Ce qui
c'est
est...
ça.
Ça, c'est pas la question. La question, c'est qu'en fait, à partir du moment où on remet le calcul du salaire de référence et du salaire journalier de référence, ça veut dire, grosso modo, qu'on remet en question la possibilité, lorsque quelqu'un a travaillé par intermittence, c'est-à-dire que...
15 jours au mois de janvier et 15 jours au mois de février,
c'est ça, par exemple,
exemple oui.
de compter, tel qu'il est fait actuellement, toutes les périodes non travaillées et de coller un coefficient qui fait baisser... qui met au plancher hein, l'allocation de la personne qui a travaillé par intermittence.
D'accord. En fait, hein. Ça veut dire que, par exemple, au mois de janvier, j'ai travaillé 15 jours, au mois de février, j'ai travaillé 15 jours. C'est 30 jours en question sur les deux mois. Je suis payé 57% du salaire, par exemple.
Alors
que l'autre partie, c'est pas 57%.
Avec, la réforme, en fait, on va compter... Par exemple, tu as travaillé 15 jours en janvier, tu as travaillé 15 jours et entre-temps, tu as une période, on va dire, je sais pas, de 15 jours de
chômage.
Même d'un mois de chômage, et
oui.
Tu reprends ton élu, et ben, et compter dans ta période de calcul le 1 mois de chômage, en fait, le 1 mois d'inactivité. Tu
mais
comprends
pas
qui
même,
fait chuter
pas même,
qui fait, ça, c'est la réforme. Dans la réforme. Dans
d'accord.
La réforme, ça fait chuter ton même de moitié, ça pouvait faire chuter, d'après les calculs, de moitié ton indemnisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on prenait... On compte toute la période, donc en l'occurrence 2 mois. Sur les 2 mois, tu as travaillé 1 mois, mais tu as aussi 1 mois d'inactivité, donc tu divises par 2 ton indemnisation.
Ah oui, c'est
donc
c'est,
voilà, donc c'était vraiment très sévère pour les gens. D'autant que, comme le soulignent les études, hein, comme on l'a dit, les contrats courts, c'est pas une invention des salariés, et puis c'est parfois des contrats très courts, et c'est des emplois qui sont visiblement extrêmement précaires.
Hein, c'est une invention du néolibéralisme, on va dire, on peut dire ça comme ça ou
les contrats,
les contrats courts.
Ben, en tout cas, c'est très moderne et en tout cas, c'est une invention des employeurs, on va dire. Et donc, du coup, le fait que ce soit remis en question, ça remet la contrepartie soi-disant hein, de cette réforme magistrale, c'était que effectivement, tu perdais 50%, donc en l'occurrence de ton indemnisation, mais ton indemnisation était repoussée d'autant.
C'est ça.
Tu vois
oui.
Et donc, tu étais à un taux bas. En fait, l'idée, c'est d'inciter
les gens
à reprendre le travail. Alors, on est toujours dans la même logique, hein, c'est-à-dire inciter les gens à reprendre du travail, mais évidemment, n'importe quel type de travail, ça, c'est sûr, y compris celui que, je sais pas, peut faire peut-être des sans-papiers à 5h du matin dans les gares.
Mais pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue, hein, ça a été dit. Hein.
Mais je crois que le problème est là, c'est qu'on a effectivement des gens... c'est qu'on n'est pas tout à fait sur la même planète, effectivement. Les gens qui pondent ces réformes, d'abord, sont payés... Et on peut commencer à le dire, hein, des mille et des cents, ça, il n'y a pas, voilà, pas, enfin, en comparaison, hein, de quelqu'un qui est le SMIC, bon, bah, Il n'y a pas de comparaison possible. Et à tel point dire qu'on peut se demander s'il y a une certaine logique à toucher autant, même quand on est dans la fonction publique, hein, même quand on est ministre. Et c'est des gens qui n'ont jamais été en but, enfin qui n'ont jamais eu ces problèmes-là, c'est-à-dire effectivement du fait de leur qualification, de leur cursus, donc, qui ont quand même eu la possibilité, même si c'est un milieu très concurrentiel, mais d'intégrer toujours des postes où il y a eh ben, ma foi, où on est quand même bien payé, où on peut mettre de l'argent. Et donc, ils ne vivent pas ce que vivent les gens d'en bas. Et notamment, par exemple, je sais pas, des jeunes qui sont déscolarisés, des jeunes qui ont juste le bac comme, et qui tout d'un coup se retrouvent sur le marché du travail et qui sont même pas au SMIC. Voilà. Et qui peuvent tout d'un coup, se taper tous les petits boulots, tout pourris, en fait, qu'ils ont. Voilà. Donc, de toute façon, il y a aussi une manière de fixer, mais c'est vieux comme le monde, hein, de fixer la main d'œuvre là où elle est et de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop exigeante. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, hein, vous avez fait un bac plus 3, je sais pas quoi, en psycho, en sociaux, tout ça, et puis d'un coup vous vous retrouvez à peindre, c'est un exemple que j'ai rencontré autour de moi, hein, vous vous retrouvez tout d'un coup à peindre dans le bâtiment un mur, voilà, sur une chaise, pas sur un, comment dire, par un treuil qui vous porte, et donc voilà, hein, donc c'est un vrai boulot compliqué. Bah, tant qu'à faire, si vous pouviez garder ce boulot-là, à la limite, c'est rester dans cette voie-là, si il est un peu stable, plutôt que d'essayer de changer, il y a aussi de cette logique-là, quoi, quelque part.
D'accord. Alors, j'avais vu également que ce qui n'a, par exemple, ce qui reste en vigueur, donc, c'est la dégressivité des allocations au-delà de 8 mois pour les personnes concernées.
Oui.
Donc alors, là, apparemment, ça
le reste, est relativement, comment dire, j'allais dire anecdotique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est contre la dégressivité, mais la dégressivité concerne en fait des hautes indemnisations.
D'accord.
Et de la même façon qu'assez par principe est contre contre le plafonnement de l'indemnisation, mais en France, on est quand même très très généreux. C'est-à-dire quelqu'un, un intermittent qui a gagné, bon, je vais arrêter avec ces histoires, c'est un intermittent, mais on va dire un comédien qui a très bien gagné sa vie, quand il pointe au chômage, ou un footballeur professionnel, quand il pointe au chômage, il a l'indemnisation maximum, et bon, c'est très très élevé. Un peu aussi comme, je sais pas, oui. Un cadre, un super cadre. Hein, qui est... Voilà. Alors qu'en Belgique, ils avaient un système qui était quand même, on peut discuter, mais c'est moins de durée dans le temps, pas durée parfois, et par contre un plafonnement beaucoup plus strict. Hein, c'est-à-dire qu'on considère que quand vous êtes cadre ou footballeur, vous avez eu le temps de mettre de l'argent à côté. Donc bon, voilà, on est évidemment pas favorable ni à la dégressivité. Et puis il y avait d'autres. Vous savez, il y avait plein de choses, parce qu'il y avait plein de choses à dire de cette réforme. Donc par exemple, il y avait les organisations syndicales avaient attaqué la réforme sur le fait qu'il y avait une inégalité criante entre bénéficiaires de l'indemnité du chômage. Mmh. Et on ne peut être que d'accord avec ça. C'est-à-dire que, bah oui, tu as eu la chance de rester un mois de plus en continu dans ton entreprise pendant qu'il y a un type qui fait des petits bouts à droite et à gauche. Et à la fin, l'indemnisation peut varier du simple au double. Oui, il y a une inéquité d'accès aux droits. Bon, visiblement, le Conseil d'État a jugé que... C'était pas recevable. Voilà.
D'accord. Ouais.
Et donc ça n'a pas été remis en cause, quoi. Et donc de fait, après il y avait aussi par exemple une inéquité par rapport à quelqu'un qui n'a pas pris ses congés payés et à la fin on lui paye et donc il a quand même un petit quelque chose,
mais c'est normal puisque
effectivement que attendez, vous avez quand même affaire à l'indemnisation du chômage, hein, qui va pas vous faire des cadeaux. Et donc, bah oui, pour ces gens-là, bah, ils perdaient une bonne partie de leur congé,
oui,
du fait de la différence.
Ah, des congés, oui.
Des, ouais. Voilà, de, ouais. Des congés payés, hein. Voilà. Donc, être chômeur, c'est être fainéant quand même. Hein, donc. voilà. Donc après, le reste, intéressant, la période d'observation liée au dispositif bonus-malus sur les contributions versées par les employeurs, bah, ça, elle reste jusqu'à ce jour. Hein, puisque
ça pose un problème, parce que le bonus-malus sur les contrats courts, qui était normalement censé faire payer les employeurs qui en usaient, en abusaient.
Exactement. Il y a bien deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que vous faites porter la responsabilité aux travailleurs, aux précaires, en fait, hein, de la situation des emplois dégradés, mais vous mettez une période d'observation, parce que ça sera ce qui se veut incitative.
Oui, c'est ça.
Bon, ouais. Franchement, c'est difficile de pas dire que ces gens se moque du monde et que ça finit par se voir. Oui. C'est surtout ça. Hein. Je veux dire, je voudrais pas parler politique ici. Jamais. On ne parle pas politique.
Pas de problème, hein. Moi, je n'ai pas de problème à parler que ça.
Moi, ma déontologie m'en empêche. Je respecte. Pardon, j'ai respecté le. Bon, d'accord, il y avait le Covid. J'ai respecté la période électorale. Donc, ça me gêne de dire que quand même, les élections régionales, c'est pas un succès pour LREM.
Eh ben, tant mieux. Bah, tant mieux pour le coup, parce que sinon, faut ça à chaque fois.
Eh ben, c'est ça. C'est que errare. Humanum est diabolico, hein, n'est-ce pas? Et là, quand même, je vois les élections présidentielles se présenter et j'ai peur. Oui, bah parce qu'on a beau dénoncer la Sistana, dans les régions rurales de France, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par un manque d'activité. Et donc, le discours sur la Sistana, c'était bon il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il faudrait peut-être voir, hein, avec les gilets jaunes, il y a quand même une clientèle électorale. Alors, on sait bien que Macron a misé sur la clientèle électorale de la Startup Nation, c'est-à-dire des cadres mais malheureusement, je crois que statistiquement, ça représente pas beaucoup de gens. Et je crois que Sarkozy était bien meilleur que Macron, contrairement à ce qu'on dit. Et je crois que...
Oui, voilà, j'ai avoir du mal à accepter ça, quand même. Hein.
Bah, en tout cas, il était moins méchant. Là, au moins, on peut le dire.
T'as quelque chose à rajouter, Ludo? Là, c'est bon?
Non, je crois que j'ai...
Bon, on peut écouter une petite chanson, alors, merci.
Au printemps, de quoi rêvais-tu? Printemps ininterrompu.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM et c'est ce soir l'émission Mode d'emploi avec l'équipe historique d'Agir Ensemble contre le chômage, AC. Et c'est Gilles au micro et moi-même Ludovic et Claude à la technique. Alors on poursuit cette émission, hein, on a parlé évidemment de l'annulation par le Conseil d'État de la réforme sur l'indemnisation du chômage, mais Gilles, tu vas nous parler là cette fois-ci du recalcul de l'AAH,
oui.
Qui a été tenté par des députés en fait, hein, de l'opposition qui ont fait une proposition de loi dans ce sens. Donc je rappelle que l'AAH est l'allocation adulte handicapé.
Exact.
Et c'est une allocation qui, comme son nom l'indique, bénéficie aux handicapés de plus de 80%, je crois.
C'est ça, il faut avoir 80% d'handicap pour pouvoir bénéficier de cette allocation.
Selon la Cotorep.
Tout à fait.
Et donc c'est une allocation qui n'est pas individuelle, si j'ai bien compris.
Alors voilà, c'est ça. C'est le souci, c'est que c'est une allocation qui est liée au ménage. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, hein, et que vous êtes handicapé, selon le salaire que le conjoint a obtenu dans son travail, ou la conjointe, vous toucherez une dégressivité par rapport au plafond de cette allocation du point de vue individuel. C'est-à-dire, par exemple, si je suis handicapé, que je suis marié avec une personne qui touche 2000 euros, au lieu de toucher 903 euros d'AAH, je toucherai 40 euros, par exemple.
Mais c'est quand même une question qui peut paraître naïve. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... parce que on pourrait supposer qu'il y a des enfants handicapés, alors des adultes qui sont handicapés à plus de 80%, qui sont hébergés par leurs parents. Il y a beaucoup d'adultes handicapés qui sont en ménage, qui bénéficient...
Oui, il y en a beaucoup. Je vais t'en parler tout de suite, parce que je vais commencer par le commencement, si ça ne te dérange pas. Il y a donc une ambiance très haute de très haute tension ce jeudi 17 juin à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a contraint les députés à voter une révision du calcul de l'allocation d'adultes handicapés, l'AAH, pour les personnes en couple, en écartant donc son individualisation qui était proposée par l'opposition, bien sûr, comme tu viens de le dire à l'instant, pourtant largement également soutenue dans l'hémicycle et par le monde associatif. En clair, les revenus du conjoint continueront d'être pris en compte pour le calcul de l'AAH selon la version adoptée par la majorité LRM Modem à 121 voix pour contre 110 contre et 14 abstentions. Là où ça fait rigoler quelque part, où c'est tragique, hein, c'est une balle tragique à Colombey comme on dit dans le canard enchaîné, mais là c'est pour le coup tragique parce qu'en fait 110 contre et 121 voix pour, 14 abstentions. Si les 14 abstentions avaient voté contre, ça aurait été annuler cette décision de proposer la non-individualisation du truc, tu vois. Donc, voilà. Là, ils sont abstenus, ce qui fait que la loi
pour est restée telle quelle,
c'est-à-dire que c'est il compte le ménage en complètement, il compte les revenus du ménage pour calculer la.
Et quel est l'argument du gouvernement pour maintenir ces comptables en fait?
Bah oui, une première chose, c'est que c'est une grande déception pour les associations de défense des handicapés. Parce que le calcul n'a pas été, il n'y a pas eu de recalcul de l'AAH, et qu'on peut dire que l'AAH est donnée aux handicapés parce qu'ils ne peuvent pas travailler, c'est aussi dans l'incapacité de travailler. Donc on parlait tout à l'heure des indemnisations pour le chômage, pour les gens qui ne peuvent pas travailler ou qui ne trouvent pas de travail pour des raisons multiples.
C'est une garantie d'autonomie pour des personnes qui ne peuvent pas travailler en fait.
Tout à fait. Et là, c'est comme ils tiennent compte du ménage, donc du salaire du conjoint. La personne n'est pas vraiment...
Tout à fait autonome, puisqu'elle dépend un peu de son conjoint.
C'est exact.
Et qu'elle doit, à qui elle peut peut-être rendre des comptes, quand même, voilà. Quelque part. Hein.
Mais
sans compter que c'est une charge, finalement, pour le conjoint.
Mais ça met... c'est là où la question peut se poser. Je la pose, c'est pas indiqué dans le document que je suis en train de lire, mais la question que je peux poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas ici une question de priorité de constitutionnalité? Parce que en mettant c'est une question qui sera peut-être posée au niveau du Sénat, parce que ça va passer au Sénat après, après retomber à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que recalculer les revenus de la personne handicapée selon les revenus du conjoint, ça le met dans une forme de soumission.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Donc là, il est déjà handicapé.
Mais je crois que c'était déjà le cas de la SS aussi, et c'est aussi le cas des allocations familiales.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
que certaines allocations sont effectivement assises sur le foyer, sur les revenus du foyer.
Tout à fait.
Or, c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui relève de l'individualisation, c'est-à-dire de la personne elle-même, et qu'est-ce qui relève de la famille. Or, c'est vrai que autant on sait que les allocations chômage ont été conçue parce que la personne a travaillé, donc elle ouvre des droits, et donc elle ne touche que ses droits. C'est ça la logique qu'il y a derrière.
Bien sûr, bien
c'est-à-dire
sûr.
Qu'on n'est pas derrière, l'UNEDIC n'est pas derrière à taper sur la locataire parce que son conjoint gagne trop. En revanche, sur certaines autres allocations comme l'AAH, typiquement, l'AAH, c'est un droit, c'est de la solidarité parce que la personne est dans l'incapacité de travailler. Mais ça, on pourrait supposer que ça relève de sa personne, de sa situation personnelle.
Ça relève de sa personne et non pas du ménage.
Tout
à fait.
Alors, c'est vrai que là, il y a. Et alors, les gens qui sont abstenus, c'est dommage, ils sont abstenus parce qu'ils appartenaient à LREM ou parce que.
Parce que non seulement ils appartenaient à LREM, mais parce que ça leur posait un problème de voter pour, surtout. Parce qu'en fait, ça a été pendant que le projet a été présenté à l'Assemblée nationale, ça a été extrêmement houleux. Là-bas, parce qu'il y a eu d'abord l'opposition qui a non seulement crié, vociféré, et qui est partie de l'Assemblée nationale et de l'hémicycle.
Oui, pour dire que, on avait des gens qui étaient des réacs, et qu'il fallait qu'ils se montrent sous leur vrai visage.
Ils se sont tous levés, ils sont tous partis, pour montrer leur désapprobation.
Oui.
Mais dans la partie de la droite, LR, LRM, etc., même FN, enfin, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup.
Oui, tu allais dire la droite modérée, non, c'est pas ce que tu as voulu dire.
Je n'ai pas voulu dire ça, je ne suis pas du tout modéré. Eh bien, eux aussi n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, il y en a 110 qui ont voté comme un seul homme parce que c'est des godillots, ils ont toujours voté comme ça. Mais il y en a 14 qui commencent à se poser des questions et qui ont voté, au lieu de voter contre, pour ne pas risquer d'avoir des soucis avec leur administration propre ou je ne sais pas comment ça marche, mais.
Non, avec leur parti.
Avec leur parti, pardon. Ils ont voté, ils sont abstenus. Voilà.
Oui, donc, non, mais c'est très étrange d'avoir toujours ce gouvernement qui finalement est d'une dureté extrême sur des situations, c'est pas la première fois qu'on voit ça, où vraiment, on leur demande pas grand-chose, hein, mais non, c'est ces gens qui se présentent avec un cœur grand comme ça, Macron qui va nous diriger avec amour, etc., etc., c'est des pingres en fait.
C'est des pingres.
Faut le dire, c'est des
D'autant
pingres.
Qu'en fait, ils ne font rien pour l'évasion fiscale, qui est à 80 milliards, voire plus.
Mais rien contre le... Non seulement, mais même la baisse de charges, c'est dans le programme de Macron, la baisse des impôts, c'est dans le programme de Macron.
Donc voilà, on est d'accord là-dessus. Donc pour rappel, si vous êtes handicapé et que votre conjoint ou votre conjointe gagne plus de 1020 euros net par mois, le montant de votre AAH, 903,60 euros, est dégressif. C'est-à-dire que 903,60 euros, c'est le maximum de l'AAH qu'on obtient quand on est tout seul handicapé.
Une fortune.
Si vous êtes marié ou même en couple sans être marié, c'est ça où ça pose un problème aussi, on va voir après. Si vous êtes marié avec une personne qui touche 1020 euros, donc votre femme touche 1020 euros, eh ben, vous toucherez, au lieu de toucher 903 euros, vous toucherez 700 ou 750, je ne sais pas. C'est dégressif. Si par contre votre femme touche, femme ou homme, ça dépend voilà, dans quel sens on le dit, si votre partenaire touche 2270 euros, donc au-dessus de 2000 euros, vous toucherez peanuts, zéro. Donc,
bah écoute, 2000 euros divisé par deux, 1000 euros chacun, moi ça me paraît tout à fait correct.
C'est,
non
oui,
non,
c'est pas ça. Surtout quand tu as deux enfants et qu'on vit dans
votre. Entre autres, ouais, c'est un détail.
C'est terrible. Non, mais c'est hallucinant. Alors, ce jeudi dans l'hémicycle, face à la levée des boucliers de toutes les oppositions d'une partie de la majorité du MoDem, même le MoDem était contre, qui tanguait, le gouvernement, c'est là, c'est très fort, le gouvernement a utilisé.
Le vote
deux armes extrêmement puissantes. Hein. Ça aurait pu être le 49-3, hein, pour le coup. C'est pas le 49-3.
Pas pour ça, quand même.
Non. Pour reprendre la main sur le débat parlementaire, dans un premier temps, il a demandé un report du vote de la proposition de loi concernée. Puis ensuite, quand il voyait que ça marchait pas, il a utilisé le vote bloqué, ne laissant aux députés d'autre choix que de voter sans retouche la version approuvée par l'exécutif.
Ah, mais ils sont incroyables quand même.
Incroyable.
C'est-à-dire que le Parlement n'a même pas son mot à dire. C'est-à-dire que même quand ça tangue, que tout le monde n'est pas d'accord, c'est ça ou rien, quoi.
Et c'est là où les députés se sont levés, ils sont sortis.
Ah oui, c'est presque un déni de démocratie, c'est une façon de fonctionner.
Mais rappelle-toi, Ludo, d'ailleurs, tu te souviens très très bien, en 2005, quand on a voté contre l'Europe, on a 55% ont voté contre. En France,
et on a fait revoter,
par le Parlement. Oui, ce qui est absolument, c'est un déni de démocratie absolue. Il faut le savoir. Bon.
Laisser les clés à des technocrates, c'est dangereux.
D'accord.
Pour tout le monde.
Voilà. Donc ça c'est quand même. Alors pourquoi tout à l'heure je me permets de prendre quelques minutes encore, de toute façon on a un petit peu de temps, mais pourquoi je disais que tu viens de le dire, il y a l'AAH, il y a également l'APA, l'aide aux personnes âgées,
on
prend le ménage en considération. Il y a, tu viens de le dire, pour les personnes qui sont en ASS.
L'ASS, l'allocation logement.
L'allocation logement. Tout ça ne me semble pas. Alors, c'est légal.
Le RSA aussi.
Tout ça, c'est légal, mais ça me paraît quand même très. On pourrait peut-être contrer.
Mais ça dépend de. Ça dépend du type d'allocation. Et puis après, oui, enfin, c'est légal au sens où. Alors, c'est vrai qu'on fait souvent une. Une confusion entre ce qui relève des luttes qui a été obtenue dans l'entre-deux-guerres et tout ce qui a été mis en place après 45 et postérieurement à 45 qui relève de volonté d'Assemblée nationale de voter et même si c'est des choses qui finalement quelque part sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ça veut dire qu'ils sont dans la Constitution ne sont plus aujourd'hui des choses intouchables.
Oui, c'est
on peut dire ça comme ça. Hein. C'est même l'indemnisation chômage, peut-être qu'elle existera. Enfin, voilà, peut-être que ce sera un minimum de solidarité. Et donc, du coup, la vraie question, c'est effectivement parce que donner des droits à quelque chose qui n'a jamais été conçu comme tel, c'est-à-dire typiquement l'AAH, une allocation par foyer et non pas par individu. Ça nécessite forcément un combat législatif, une majorité, une promesse de campagne. Donc je suis pas sûr que le recours juridique. C'est à tenter.
Il y a un sujet qui concerne, qui est certainement analysé par les constitutionnalistes, c'est-à-dire que les aides sont individuelles au départ. Donc, si les aides sont individuelles, pourquoi prendre en compte les ressources du ménage, puisque les aides sont individuelles. Si les aides sont considérées comme collectives des aides pour le ménage, là, on prend en compte le ménage. Si ce sont des aides individuelles, pourquoi on prend en compte les ressources du ménage ? C'est tout bête ce que je viens de dire.
Il y a différents types d'aides.
C'est tout bête ce que je viens de dire, mais c'est tout à fait défendable. C'est-à-dire qu'un avocat...
Un juge peut défendre
ça. Un avocat pourrait défendre ça devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant le truc de droit constitutionnel ou devant une autre juridiction en disant qu'il y a un loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'effectivement, l'aide étant individuelle, je ne vois pas pourquoi on prend en compte les ressources du ménage.
Mais le problème, c'est que, Gilles, l'aide n'est pas individuelle. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire qu'en fait, l'aide est accordée au foyer.
Mais
normalement, non, puisque pour l'allocation au logement, par exemple, typiquement, pour d'autres, tu vois.
L'allocation au logement,
je suis d'accord avec toi. Par exemple, l'allocation de solidarité, l'ASS. L'ASS, c'est bien un chômeur qui tout d'un coup touche l'ASS. Et tout d'un coup, on lui dit, ah, mais non, mon coco, maintenant, parce que c'est la solidarité nationale, ce sera par foyer. Parce que c'est l'État qui paye, hein. C'est, enfin, par délégation, bon, voilà, on considère que c'est l'État qui donne. Et donc là, c'est pareil, c'est la distinction entre la solidarité et des choses qui ont été acquises par des droits que tu aurais ouverts.
Oui.
Tu vois, et donc le distinguo fait que, visiblement, hein, que même quand il s'agit d'une allocation qui s'attache à ta personne, on considère que tu peux avoir des aides extérieures, que comme c'est de la solidarité, tout bénéfice de l'aide extérieure fait qu'on peut réduire tes allocations.
Oui, mais tu as raison.
J'explique juste la logique du truc, mais...
C'est exactement ce qu'ils disent, en fait. Tu as raison, évidemment. Mais
effectivement, c'est quelque chose à changer. Quand on a un handicap dans notre société individualiste, où on ne reste pas tout le temps ensemble, et puis aussi où on a aussi une charge pour la personne, une question d'égalité dans le couple... Je pense qu'il faut pas être trop radin, quoi.
Oui, surtout que 903 euros, c'est pas ça qui va. Voilà. Bon. Alors, je voudrais juste faire un parallèle avant de repasser une chanson, Ludo, parce que tu m'interrogeais. Mais juste un truc, c'est par rapport à l'APA. Alors, je vais pas parler de mon cas personnel, tout le monde s'en moque.
Alors, l'APA, c'est l'allocation.
C'est l'aide aux personnes âgées.
L'aide aux personnes âgées qui sont en absence d'autonomie, qui n'ont plus d'autonomie.
C'est ça. Voilà. Donc, c'est les gens de grande dépendance qui sont placés par les familles dans les EHPAD.
Voilà, c'est ce qui sert à payer les EHPAD ou éventuellement les aides ménagères.
Voilà.
C'est ça.
Alors, là où il y a un loup, mais peut-être qu'on en reparlera un autre jour, un autre moment. Là où il y a un loup, c'est que les frais d'hébergement des EHPAD, on va dire un chiffre classique pour 100 euros. On va dire, c'est pas ce chiffre-là, mais on va dire 100 euros par jour pour une personne qui rentre dans un EHPAD et que la famille doit.
Oui, pas donné.
C'est pas donné, donc ça va faire 3000 euros par mois.
Oh. Voilà. Mais c'est énorme.
Là-dessus, comme la personne est en grande dépendance, le département, dans sa grande générosité, permet de donner l'APA, après que la famille ait fait la demande de l'APA, elle donne l'APA, c'est l'équivalent de 20 euros par jour. Sur ces 20 euros par jour, j'essaie d'être clair, c'est pas évident. Hein.
Donc 100 euros moins 20 euros, c'est
non,
ça
hein. 100 euros, non, c'est différent. Justement, c'est ça où il y a un problème. Donc 100 euros donnés à l'EHPAD par la famille, 20 euros par le département.
Par l'État.
Et sur ces 20 euros... Il y a un ticket modérateur qui correspond à un GIR 5 et 6. Le GIR, c'est le degré de dépendance, qui est à peu près, on va dire, 5 euros. Donc sur les 20 euros qui est donné par le département, 5 euros seront à payer par la famille. Là où ça impose un problème, c'est que sur ces 120 euros payés par le département...
Ah, donc les 100 euros sont payés par le département?
Non, les 100 euros sont payés par la famille et 20 euros par le département. Okay. Le problème, c'est que si tu ne peux pas payer l'EHPAD... Le département prend l'argent à la source, c'est-à-dire prend l'argent sur les retraites de la bénéficiaire de l'aide. Donc, par exemple, une personne touche 2000 euros de retraite, il va y avoir 1900 euros qui vont être pris par le département chaque mois pour payer les frais d'hébergement de l'EHPAD. Comme l'EHPAD était à 3000 euros, normalement, la famille doit plus que 1100 euros sur le mois. Le souci, c'est que l'APA, l'aide aux personnes âgées, c'est pour la dépendance. Elle est payée en plus des frais d'hébergement. Et là où ça pose un problème, c'est que normalement, comme c'est une aide par le département, ça devrait arriver en moins. On devrait payer, par exemple, 100 euros moins 20, donc 80 euros. Parce qu'en fait, ça va être déductible de la facture totale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc là, il y a un loup.
Et ça sert à quoi alors, du coup, si c'est pas fait pour payer les...
Bah, ça veut dire que ce n'est plus une aide, mais une avance. Et là où il y a une possibilité de question de priorité et de constitutionnalité, c'est que il y a un loup en termes de sémantique, en termes de sémantique, donc de sens des mots. C'est-à-dire que ce n'est plus une aide, mais une avance. C'est-à-dire qu'on doit la rembourser. Mais on en reviendra plus tard parce que c'est très.
On doit forcément la rembourser intégralement ou on doit rembourser juste le ticket modérateur?
Non, on rembourse le ticket modérateur pour l'APA, mais on paye quand même les frais d'hébergement en plus. Sur les 100 euros, je paye 100 euros à l'hébergement, plus 5 euros de remboursement de l'APA, de l'aide aux personnes.
Et donc les 20, les 15 euros qui restent, c'est toi qui les as encaissés, c'est ça?
Non, les 15 euros ne sont pas remboursables, ils sont donnés.
Voilà, mais donc ils sont donnés à la famille, quoi.
Non,
donc,
ils sont donnés à l'EHPAD, pas à la famille.
Mais alors du coup, c'est 100 euros ou 15 euros, moins 15 euros?
Du coup, c'est 100 du tout.
Moins 15?
Non, c'est ça le problème.
Mais il vient quoi l'argent alors?
L'argent que donne le département.
C'est-à-dire que tu payes 100 euros, ça reste 100 euros.
Toi, tu payes 100 euros à l'EHPAD. Le département de Paris paye 20 euros à l'EHPAD, donc chaque jour.
D'accord, donc oui, donc j'ai compris. Donc grosso modo, on paye à fond perdu les pâtes parce que c'est super déficitaire, mais par contre, ce qui est demandé à la famille est toujours le même. C'est ça l'idée. C'est la famille ne touche rien de la PAP.
Exact.
Voilà. Et ça fait l'objet d'un projet de loi ou là,
pas du tout. Ça fait l'objet d'une question que je m'étais posée parce que je connais des gens qui sont dans cette situation difficile. Mais la question qui se pose. Non, mais tu as raison de poser la question. La raison qui va se poser, c'est qu'effectivement, il y a, à mon avis, un problème qui s'est posé aux avocats des gens dont je parlais tout à l'heure, des gens que je connais qui ont ce problème. C'est qu'effectivement, la question est, si c'est une aide, elle doit venir en déduction de la facture totale de l'APA, de l'hébergement. Sûr. Et c'est là que ça pose un problème. J'ai une autre anecdote avant de passer à la chanson, si tu me permets. Pour revenir sur les problèmes des gens qui sont handicapés, vu et entendu, mais authentique, hein, on me l'a raconté, au tribunal judiciaire à Paris, dans le 17e...
Vu et entendu ou on te l'a raconté?
On me l'a raconté. Ah. Vu et entendu, on me l'a raconté.
On te l'a raconté, d'accord.
Une personne handicapée en chaise roulante, avec son avocat commis d'office devant trois juges, donc au pôle social du pôle judiciaire, l'administration lui a envoyé trois courriers... Et comme ils ne donnaient pas de réponse, ils lui ont arrêté son AH, son aide. Donc il s'est fait connaître en disant pourquoi j'ai pas reçu mon aide, je n'ai pas compris.
Son AH donc.
Son AH. Donc pourquoi il a pas reçu son aide? Parce qu'en fait ils avaient envoyé un courrier à une fausse adresse. C'est-à-dire qu'il habitait par exemple 20 rue de Lyon, je dis n'importe quoi. Hein. Ils avaient envoyé ça au 22 rue de Lyon, alors 22 rue de Lyon, il n'y a personne qui est de ce nom-là qui habite. Bon. Et lui demande en plus de rembourser l'équivalent de 60 000 euros ce qu'il lui avait déjà donné auparavant. Donc, il a donc pris un avocat commis d'office pour défendre son truc. Il y a de fortes chances qu'il gagne. Parce que là, il y a des faux.
Ils insinuent que c'est pas lui qui a touché la hache ou qu'il n'y avait pas droit ou...
Ils ont lancé une procédure, mais à mon avis, c'est mort pour eux. Mais bon, le principal, c'est qu'il n'a rien à payer, qu'il récupère son hache, évidemment. Donc, c'est quand même. L'administration fait quand même beaucoup d'erreurs. Et souvent, ils sont de mauvaise foi. Souvent, ils se retrouvent souvent devant les tribunaux. Alors, je ne sais pas combien ça coûte pour l'administration de tous ces procès. Je suppose que ça doit aller très, très vite.
Ce qui compte, c'est ce qu'on récupère. Vu de l'administration, j'imagine que
c'était un peu compliqué ce que j'ai raconté, mais c'est vrai que c'est compliqué. On va écouter une petite chanson, merci.
Avec le temps, va tout s'en va. On n'aime plus.
Et oui, c'était Avec le temps de Léo Ferré, chanté par Frédéric, notre ami Frédéric. Très belle chanson, très belle interprète aussi. Voilà. Donc on reprend cette émission, c'est Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission émission des chômeurs précaires, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure.
Équipe avec... historique d'AC.
Tout à fait. Agir ensemble contre le chômage avec Ludo au micro, moi-même.
Bonsoir.
Et bien sûr Claude à la technique, super Claude toujours à la technique comme d'habitude. Et on va reprendre cette émission parce que je crois, Ludo, tu voulais parler des Outre-mer.
Eh oui, tout à fait, parce qu'on oublie dans cette émission trop souvent de parler de l'Outre-mer. Et donc justement, là, je voulais relayer l'appel des élus réunionnais qui s'insurgent contre la réforme de l'assurance chômage parce que, disent-ils, ils considèrent que, une nouvelle fois, les réformes de l'État sont davantage conjoncturelles que structurelles, ne résolvent aucunement en profondeur les maux dont souffre notre société, puisqu'ils considèrent que le système d'assurance chômage doit protéger, être incitatif au retour à l'emploi et tenir compte des contextes, que l'ubérisation du marché de l'emploi, c'est l'ubérisation du marché de l'emploi qui conduit au recours à des contrats courts et à la précarisation des salariés. Et ils disent que si la France hexagonale compte 15% de la population en situation de pauvreté, soit ça fait 9,3 millions, c'est 40% à La Réunion. Et juste pour finir sur ce chiffre, La Réunion compte 132 350 chômeurs pour une population de 700 à 800 000 personnes.
Oh,
donc c'est énorme.
C'est énorme.
Et donc voilà. Et donc c'est les élus réunionnais, mais ça aurait pu être les Guadeloupéens. Voilà. Et donc effectivement, l'État ne voit que ces petits...
Que le bout de son nez, quoi.
Voilà, que le bout de son nez, exactement.
Merci, Ludo. Alors, pour finir, parce que je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Claude me le dit derrière, oui, très, très court. Avec la crise sanitaire et la disparition des petits boulots, Il faut savoir qu'il y a en France aujourd'hui 1 million d'étudiants qui se sont retrouvés dans une situation financière délicate. Logement, alimentation, santé psychologique fragile. Comment remédier à ces difficultés? La journaliste Flora Sauvage a suivi les sénateurs de la mission d'information sur la précarité étudiante dans Sénat en action. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'initiatives hein, faites. Donc il y a le CROUS qui donne des repas à 1 euro le repas. Donc par contre, c'est peut-être pas toujours très bon, mais enfin bon, c'est quand même toujours pas mal. 1 euro au lieu de 4,50 euros. Enfin, je sais pas. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites quand même pour aider les étudiants à survenir, en tout cas à manger à leur faim, hein, pour le coup. Mais il reste quand même une question quand même qui est fondamentale qu'on se pose ici aujourd'hui, c'est comment fait-on pour permettre à ces étudiants d'étudier dans de bonnes conditions et surtout de pouvoir travailler, de du travail, et en tout cas d'avoir des bourses pour ceux qui ne peuvent pas éventuellement avoir de travail.
Tout donc, à fait. Oui. Sachant que travailler n'est pas forcément une gage de réussite de ces études.
Merci Ludo, merci à Claude pour la technique, je me remercie moi-même aussi.
Et tout de suite, c'est Stress et Mécano.
Voilà, bonne soirée à vous, à bientôt, au revoir.